La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien bonjour chers auditeurs, auditrices, je suis Patrick Saporito, je continue donc mon étude sur le livre de l'Apocalypse. Après l'ouverture des sept sceaux et le retentissement des sept trompettes, et avant les sept coupes, les chapitres 12 à 14 du livre de l'Apocalypse dans la Bible forment un récapitulatif de toute l'ère messianique depuis la naissance de Jésus jusqu'à son retour à la fin des temps. Ces textes sont là pour nous révéler le combat spirituel cosmique dans le ciel entre Dieu et son ennemi juré, le diable, avec ses conséquences sur la terre. Ces textes sont là pour encourager les croyants nés de nouveau en Jésus-Christ qui luttent pour résister à l'empire du mal et nous rappeler que la lutte n'est pas contre la chair et le sang et que Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Je vous invite donc à prendre le livre de l'Apocalypse. Déjà, je lirai le chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. Amen, donc jusqu'ici la parole de Dieu. Il ressort de ce texte cette vérité, que l'Église de Jésus-Christ peut garder les commandements de Dieu parce qu'elle est dans un combat spirituel déjà gagné. Pourquoi ce combat est-il gagné? Ce que je vous propose de voir en 3 points. Premièrement, parce que le combat a déjà été gagné par Jésus-Christ. Deuxièmement, parce que Dieu protège et nourrit son Église. Troisièmement, parce que Dieu lui a donné les moyens de reconnaître les ruses de son ennemi, le diable. Premièrement, voyons donc que la victoire est acquise pour ceux qui gardent les commandements de Dieu parce que Jésus-Christ a déjà gagné le combat spirituel. Le chapitre 12 commence avec un signe dans le ciel. Je cite le verset 1, « Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. » Fin de citation. Pour l'apôtre Jean, cette femme représente l'alliance éternelle de Dieu avec les hommes. C'est le peuple entier de Dieu, issu de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Elle part de Ève, la première femme à qui Dieu a promis que sa descendance écraserait la tête du serpent, voire Genèse chapitre 3 verset 15. En passant par Israël, le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance. Le soleil, la lune et les 12 étoiles font écho au rêve de Joseph en Genèse chapitre 37 verset 9 et représentent les 12 patriarches et les 12 tribus d'Israël. C'est d'Israël qu'est issu le Messie, la descendance promise d'où sortira le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance, l'Église de Jésus-Christ. Les 12 étoiles font aussi penser aux 12 apôtres. Cette femme est enceinte. Ève est la première femme à connaître les douleurs de l'enfantement. Israël est comparé aussi à une mère dans les douleurs de l'enfantement, en Ésaïe chapitre 26, verset 17. La Vierge Marie a été enceinte du Messie. Ce n'est pas pour autant que nous pouvons la prier, elle qui se disait l'humble servante du Seigneur. Elle n'est pas la femme du verset 1, mais elle fait partie de la femme, incluant Ève, Israël, Marie et l'Église. Les douleurs de l'enfantement font penser à une délivrance prochaine. Le verset 3 indique un autre signe apparu dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes avec des diadèmes et 10 cornes. Il s'agit du diable qui se tient prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance parce qu'il est une menace pour lui. La femme enfante un fils. On pense déjà bien sûr à la naissance de Jésus, le Messie, issu d'Israël, qui pètera les nations avec une verge de fer. On peut voir dans le verset 5 un condensé de la vie de Jésus de sa naissance à son ascension parce qu'enlevé vers le trône de Dieu. Le roi Hérode a voulu le tuer dès sa naissance, mais l'enfant a été mis à l'abri par Dieu pour le faire échapper. Même si Jésus est mort sur la croix, Jésus n'a pas pu être dévoré par le dragon car il est ressuscité pour obtenir ainsi la victoire sur nos trois ennemis, c'est-à-dire notre péché, la mort et le dragon, le diable. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ qui veut lui rester fidèle peut avoir l'assurance qu'elle ne pourra pas non plus être dévorée par le dragon, même dans la persécution, même dans la mort, parce que Dieu est fidèle. De même que Christ a été mis à l'abri pour échapper au roi Hérode, son Église aussi sera mise à l'abri à certaines périodes dans le désert pour y être nourrie par Dieu. Voyons mon deuxième point. La victoire est acquise pour ceux qui gardent les commandements de Dieu parce que Dieu protège et nourrit son Église. Je cite le verset 6. « Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Fin de citation. La femme est mise à l'abri pendant 1260 jours, ce qui correspond aux 42 mois du règne de l'Antéchrist sur terre. Voir chapitre 13, verset 5. Cette fuite de la femme au désert s'applique aussi à l'Église de Jésus-Christ depuis sa naissance qui a connu, connaît et connaîtra encore des moments de persécution. Pensons aux premiers chrétiens de l'Église primitive persécutés par les Romains et aux huguenots protestantes en France victimes du massacre de la Saint-Barthélemy et des dragonnades de Louis XIV au XVIe siècle. Ils formaient les assemblées du désert en s'abritant sous les rochers pour célébrer leur culte. Et vous ? Comment vivez-vous vos traversées du désert? Si on considère qu'elles ont un but, parce que le désert est un endroit préparé par Dieu, pour nous mettre à l'abri d'une menace et pour nous nourrir par sa parole, la Bible, eh bien nous serons mieux enclins à les accepter pour écouter ce que Dieu a à nous dire. On peut les voir comme des périodes où on peut se fortifier, on reprend des forces pour affronter des difficultés futures. Il est ensuite question d'une guerre dans le ciel, entre l'archange Michel et ses anges, et le dragon et ses anges, verset 7. Guerre que le diable va perdre et qui le précipitera avec ses démons sur la terre. La victoire semble acquise par l'archange Michel et ses anges, mais le verset 11 précise que le véritable vainqueur est Jésus, l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour donner la victoire à tous ceux qui croient en lui comme leur Seigneur et leur Sauveur. Au verset 9, le diable est appelé de 4 qualificatifs, grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Le serpent ancien séduisit Ève au commencement du monde. Le diable signifie calomniateur, accusateur, médisant. Satan veut dire adversaire. Le diable ne peut plus poursuivre son activité au ciel d'accuser les frères devant Dieu jour et nuit. Depuis quand ? Depuis que Jésus est mort sur la croix et ressuscité, parce que Tous ceux qui croient en lui sont acquittés et justifiés par son sang, Jésus ayant pris sur lui notre punition. Je crois que le diable, l'accusateur des frères, a été chassé du ciel et précipité sur la terre depuis ce moment. C'est un événement glorieux qui provoque une louange au ciel. D'où cette proclamation au ciel, verset 10, que je cite, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Fin de citation. Cette victoire est déjà au ciel et pas encore établie sur la terre, mais elle est assurée pour les sauver, l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour la terre. Malheur à la terre et à la mer, verset 12, d'autant plus que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable poursuit la femme, l'Église, au désert, et veut l'engloutir par un fleuve que la terre finit par engloutir. On peut y voir un fleuve d'enseignements mensongers contre lequel Dieu veut encore protéger son Église et qu'il met à l'abri. Lorsque le dragon en colère n'a pas réussi à dévorer la femme, l'Église de Jésus-Christ, il va faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus par leurs paroles et leur vie personnelle. Et lorsque le diable, l'accusateur, ne peut plus les accuser à cause de Jésus, eh bien il va revenir à sa plus vieille méthode, la séduction, pour séduire toute la terre. Et Dieu veut nous avertir par sa parole, la Bible. Voyons mon troisième point. L'Église de Jésus-Christ peut garder les commandements de Dieu parce qu'il lui a donné les moyens de reconnaître les ruses de son ennemi, le diable. Je vous propose de lire la suite du livre d'Apocalypse, chapitre 13. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. » Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Amen, donc jusqu'ici la parole de Dieu. Pour en arriver à ses fins, le diable va agir, non pas directement, mais en utilisant 2 bêtes. La première venant de la mer, qui fait penser au chaos, verset 1, et la seconde de la terre, plus stable, verset 11. Le dragon a donné son grand pouvoir à la première bête, qui a aussi 7 têtes et 10 cornes, comme lui. Voir chapitre 13, verset 1 et chapitre 12, verset 3. Cette première bête décrite au verset 2 Le chapitre 13 réunit en une seule bête monstrueuse et cruelle les caractéristiques féroces des bêtes précédentes décrites dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, chapitre 7, versets 3 à 7. À savoir l'ours, le lion et le léopard, et une quatrième puissante. On peut y voir l'Empire romain reconstitué qui réunit les caractéristiques des précédents empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains, qui a connu 7 empires successifs et 10 rois alliés. On pense aussi aux alliances plus récentes pendant les Première et Seconde Guerres mondiales. Le verset 7 annonce le dernier empire mondial à venir, dirigé par l'Antéchrist, avant l'avènement du règne de Christ. Une des 7 têtes de la première bête a été frappée à mort, puis guérie, ce qui a suscité non seulement l'admiration, mais l'adoration de la terre entière. Je cite le verset 4, « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Fin de citation. Une expression d'adoration qui ressemble fortement à Exode chapitre 15 verset 11 « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Fin de citation. Les paroles de louange adressées à la bête sont les mêmes que celles adressées à Dieu. On commence à voir la stratégie du diable et de la bête « Imiter Dieu, imiter sa parole ». Autre élément de contrefaçon, la bête a été guérie de sa blessure mortelle, ce qui n'est pas sans rappeler la mort de Christ, qui a reçu tout pouvoir de par sa résurrection. La gueule de la bête, sous l'autorité du diable, blasphème Dieu et son tabernacle au ciel pendant le règne de l'Antéchrist. Mais Dieu reste souverain. Il le laisse régner provisoirement pendant un temps bien déterminé, 42 mois. Ce n'est pas nouveau. Les empereurs romains blasphémaient en voulant se faire adorer, en prétendant être Dieu et non un homme, en portant des noms qui n'appartiennent qu'à Dieu et Christ. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Hier, l'Allemagne devait prêter allégeance à Hitler. Aujourd'hui, en Corée du Nord, les Nord-Coréens doivent se prosterner devant les statues géantes de leurs dirigeants. Beaucoup de dirigeants de notre époque n'ont pas caché leur désir d'un gouvernement mondial dirigé par un seul homme qui réglerait tout. Le verset 7 du chapitre 13 de l'Apocalypse semble être une défaite pour le peuple de Dieu. Je cite « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre ». Fin de citation. La bête fera la guerre à l'Église, aux saints, et les vaincra. Bibliquement, les saints ne sont pas des gens devenus subitement parfaits et que l'on peut prier une fois morts. Non. Les saints sont tous les chrétiens, nés de nouveau, qui ont cru en Jésus seul comme leur sauveur et seigneur. Certains chrétiens pendant cette période seront mis à mort pour ne pas s'être prosternés devant la bête, comme c'était déjà le cas à Rome, où ils étaient brûlés ou jetés au lion. Le verset 8 nous dit qu'il n'y a pas de neutralité. Ceux qui n'adorent pas Dieu adoreront le dragon. Il n'y a pas de cohabitation possible. Ceux qui ont refusé de croire à la vérité adoreront le mensonge et le père du mensonge, Satan. Mais cette apparente défaite des chrétiens est en fait une victoire. D'avoir versé leur propre sang pour rester fidèles à Jésus, l'agneau de Dieu, témoigne d'autant plus de l'efficacité de son propre sang, versé pour nous tous à la croix. La victoire est quand même acquise, même dans la mort et la souffrance, même quand tout semble perdu. Le dragon ne pourra pas enlever aux chrétiens son salut, ni le dévorer. Le verset 10 est là pour encourager l'Église de Jésus-Christ à garder la foi et à persévérer dans l'épreuve, à espérer contre toute espérance, à garder les commandements de Dieu, même quand tout semble perdu. Justice sera faite sur ceux qui tuent et qui emprisonnent le peuple de Dieu. Ça ne durera pas toujours. Les dictatures, de même que toutes les puissances qui s'opposent à Dieu, passées, présentes ou à venir, ne sont pas éternelles. En témoigne la chute de l'Empire romain, la chute du nazisme. Puis entre en scène une deuxième bête à partir du verset 11. La stratégie du diable va devenir plus évidente, ce qui va nous aider à mieux la combattre. Comment est-elle cette bête? Eh bien, avec ses deux cornes, elle est une contrefaçon de Jésus, l'agneau de Dieu, qui lui en a 7, voire Apocalypse 5, verset 6. Elle a donc une apparence d'un agneau, doux, gentil comme un agneau. Elle se fait passer pour l'agneau de Dieu, mais attention, gentillesse n'égale pas bonté. Dieu, lui, est bon. Elle est gentille, mais son langage la trahit. Elle parle comme un dragon. Elle est son prophète, son porte-parole. Nous sommes là devant une contrefaçon, non seulement de l'agneau de Dieu, mais de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, avec le trio dragon, bête et faux prophète. Et Jésus nous avertit dans l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 21 et 22, que je cite, « Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Fin de citation. Et la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, nous dit « Satan se déguise en ange de lumière. » Fin de citation. Attention séduction! Satan attaque tantôt de façon directe et agressive, tantôt par séduction, déguisé, sournois, plus difficile à démasquer. La seconde bête commence d'abord par séduire tous les habitants de la terre. Elle organise une campagne internationale avec des grands signes pour pousser tous les hommes à adorer la première bête blessée et guérie. Elle pousse à l'idolâtrie, qui est d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Puis deuxième étape, la force après la séduction. Elle anime l'image de la bête pour la faire parler et pour tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. Ce n'est pas si extraordinaire que cela. Aujourd'hui, il est devenu possible de faire parler l'image d'un mort sur n'importe quel texte, avec sa voix imitée par l'intelligence artificielle, et même d'animer son image. Ça s'appelle le deepfake en anglais, qui veut dire gros mensonge. La première bête a une marque, un nom et le nombre de son nom. 666, dont elle se sert pour exercer une pression économique sur le monde entier. Si quelqu'un refuse un des trois sur sa main ou son front, il ne peut ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation croissante du commerce, avec ses lois du marché qui fait sa loi et qui outrepasse parfois la souveraineté des pays. Comment interpréter le nombre 666, dont il existe presque autant d'interprétations? C'est un chiffre d'homme à calculer d'après le verset 18. 666 est juste en dessous de 777, le chiffre parfait. 666 peut évoquer le trio satanique par opposition à la Trinité divine. L'homme n'arrivera jamais à égaler Dieu. Le diable utilisera le triple pouvoir politique, économique et religieux mis ensemble pour arriver à ses fins. On peut voir derrière ce chiffre 666 pas forcément le nom d'un individu seulement, mais aussi celui d'un empire ou d'une idéologie, du principe du mal, l'esprit de l'Antéchrist, qui est déjà à l'œuvre chez les incroyants. Voir première lettre de Jean, chapitre 4, verset 3. Aujourd'hui, le faux prophète au service de la bête est bien à l'œuvre, avec l'enseignement de l'évolution à l'école, l'idolâtrie des médias, une société poussant à consommer toujours plus. Même dans certaines églises, il peut y avoir de faux enseignements, d'où l'importance de lire sa Bible quotidiennement, de l'appliquer et à en témoigner par nos vies. C'est cette même parole qui nous permettra de démasquer les ruses et les séductions du diable. Elle est la seule autorité face aux traditions toutes humaines, religieuses et autres philosophies humanistes. Si les autorités voulues par Dieu dépassent les bornes fixées par Dieu pour nous éloigner de lui, la Bible dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voir Actes chapitre 5 verset 29. Il est question de pouvoir pour la bête et non pas d'autorité. Alors que Jésus-Christ, lui, a reçu tout pouvoir, voir Matthieu 28, verset 18, et toute autorité, voir première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 13. Ce texte est là pour nous dire qu'il est et sera possible de garder les commandements de Dieu, ainsi que le témoignage de Jésus. Aussi, il n'y a pas de neutralité. Nous serons tous marqués d'une marque qui identifie à qui nous appartenons. Nous autres, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes déjà marqués de la marque du Saint-Esprit que nous avons reçue lorsque nous avons cru en Jésus seul pour notre salut et que nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous adorons Dieu par amour, lui qui met son peuple à l'abri. Les autres qui n'auront pas cru seront marqués de la marque de la bête qu'ils seront contraints d'adorer par peur de manquer. Il n'y a pas d'autre marque intermédiaire. Alors la question du choix se pose. Quel est votre maître ? Quelqu'un a dit « Un homme ne peut que se transformer à l'image de son maître. »
Galates, chapitre 6, verset 7. Romains, chapitre 10, verset 9.